Jean de la Croix sera, on dira de lui qu'il est le guide de l'âme fidèle, désireuse de parvenir à une vie plus parfaite, un maître de sainteté. Thérèse d'Avila sera proclamée docteur le 27 septembre 1970 par Paul VI, première femme, avec Catherine de Sienne. Et le pape Paul VI mettra en valeur son charisme de sagesse, l'appelant Mater Spiritualium, mère des spirituels, et en mettant l'accent sur le message de l'oraison, comment elle fait découvrir à toute l'Église ces chemins de l'oraison. Et puis Thérèse de Lisieux, par le pape Jean-Paul II, le 19 octobre 1997, Jean-Paul II dira ceci: « Sa doctrine est à la fois une confession de la foi de l'Église, une expérience du mystère chrétien et une voie vers la sainteté. » Et donc il va chercher à justifier le doctorat de la petite Thérèse en montrant ce qu'elle peut apporter de nouveau, et ce qu'il va mettre sous le feu du projecteur, c'est « Docteur Scientia Amoris »,« Docteur dans la science de l'amour ». Et si nous continuons à creuser, eh bien nous voyons que ces trois docteurs ont des parentés, hein, que se révèle entre eux une sorte d'esprit de famille, et que cet esprit de famille, c'est une sagesse de la vie spirituelle. Ces trois docteurs éclairent les chemins de la prière et, plus profondément, les chemins de l'union à Dieu, de la transformation du cœur par l'amour de Dieu. Alors nous allons revenir dans les deuxième et troisième parties sur ces aspects. Et je vous propose dès maintenant deux mots-clés qui vont nous guider. C'est intériorité et charité. Intériorité et charité. Alors ces trois docteurs nous renvoient au mystère du Carmel. Alors je ne peux pas beaucoup développer ici, et je vous renvoie à des livres tels que « L'esprit du Carmel » de Paul-Marie de la Croix, ou « L'itinéraire spirituel du Carmel » par le tout récent canonisé Titus Brandsma, qui nous montre justement comment le Carmel est un charisme dans l'Église, une longue tradition. Alors le Carmel, vous le savez, c'est une montagne de Terre Sainte, mais cette montagne de Terre Sainte est un lieu symbolique, et c'est le lieu symbolique qui signifie, on pourrait dire, la sagesse mystique, le lieu où Dieu se donne, le lieu où monte une sève originelle, qui est la sève prophétique d'Élie, qui est aussi la source pure qu'est la Vierge Marie, la Vierge Immaculée. Notre-Dame du Mont Carmel, c'est le mystère de l'intériorité, de l'union de l'âme avec Dieu. Donc il y a un mystère du Carmel, un secret du Carmel. Et ces docteurs sont des manifestations, des prophètes, des porte-paroles de ce mystère très intérieur, qu'est le secret du Carmel. Alors ceci pour dire que on ne comprendra bien ces trois docteurs qu'en les replaçant dans le terreau qui les a fait germer, en les rattachant à la source originelle qui les inspire. Alors deux éléments. D'une part, entre eux, il y a des correspondances, et donc ils s'éclairent les uns les autres. Je me souviens que mon maître des novices, le père Guy Merlin, insistait beaucoup pour dire qu'au Carmel, on n'est pas l'homme d'un seul saint. Il faut les prendre tous, parce qu'ils s'éclairent les uns les autres, se corrigent même. Et donc on voit comment Thérèse d'Avila et Jean de la Croix sont vraiment liés dans ce projet de réforme du Carmel. et ils parlent l'un de l'autre, ils s'éclairent l'un l'autre. Thérèse de Lisieux apparaît aussi comme une fille de Thérèse d'Avila, comme une exégète des écrits de Jean de la Croix, qu'elle met en lumière pour notre temps, par toute sa vie. Donc, un éclairage mutuel de ces docteurs qui se font résonner, hein, comme dans une symphonie, ils s'appellent les uns les autres. Et puis, comme je vous le disais, ils sont des porte-paroles d'une sagesse plus originelle, ce qu'on appelle un charisme, hein, ce charisme du Carmel, et je pense notamment à la règle du Carmel, qui est vraiment l'inspiration originelle de cette sagesse qui fleurit en eux. Et c'est pourquoi il s'agira aussi de s'imprégner de ce charisme qui est leur ADN commun, hein, qui est cet esprit de famille, et donc de les lire dans la tradition qui les porte. C'est-à-dire que si vous voulez bien comprendre Thérèse de Lisieux, il faut comprendre à quel point elle est carmélite. D'où l'idée de ce parcours plus complet, hein, qui va inclure des cours sur la tradition carmélitaine. Donc ce n'est pas une sorte d'option turbo, si vous voulez, mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose de plus complet dans l'approche que nous voulons faire de cette sagesse du Carmel. Alors je vous parle maintenant des attitudes attendues de l'étudiant. Maintenant que nous avons vu la genèse de ce projet, nous allons mieux comprendre l'attitude attendue de l'étudiant. Donc vous l'avez compris, et j'ai bien entendu cela hier soir dans vos prises de parole et vos attentes, il ne s'agit pas d'acquérir une somme de connaissances, mais il s'agit de se faire disciple des maîtres du Carmel, d'entrer dans une école de sagesse. Et cette sagesse, elle va entrer en nous, non pas seulement par des heures d'étude ou d'écoute, par un effort de réflexion ou de mémorisation, mais par une transformation du cœur. Une transformation du cœur qui suppose une attitude intérieure d'écoute, de docilité, d'humilité. Il s'agit bien de se faire enseignable depuis le fond du cœur, de devenir disciple. Alors pour vous donner une idée de cela, je vous transporte au XVIe siècle une anecdote dans la vie de Jean de la Croix. Il s'agit d'un novice qui est Juan de San Pablo, qui est entré au couvent de Baeza alors qu'il était déjà adulte. Et c'était quelqu'un de très versé dans les études, il a fait des études de droit, et il était habitué à consulter beaucoup de livres. Il était fier de sa grande bibliothèque. Et donc, entré au couvent, en quelques jours, il a lu tous les livres disponibles. Et bien sûr, il commence à s'ennuyer. Alors, il en demande d'autres, et on vient rapporter ça au père Jean de la Croix, qui est le supérieur. Et le père Jean de la Croix lui retire tous ses livres et lui donne un catéchisme pour enfants avec une baguette, et il lui demande de lire tous les jours la même chose, la partie qui traite du Notre Père. Et le novice obéit, et son compagnon de cellule, le frère Hieronimo de la Cruz, raconte qu'il le voit passer de longs moments comme un petit enfant, avec la baguette dans une main et le catéchisme dans l'autre, et il verse des larmes de dévotion et de tendresse, car Dieu a récompensé son humilité et son obéissance en remplissant son âme de douceur spirituelle. Donc il est touché de dévotion, parce que Dieu a récompensé son humilité et son obéissance en remplissant son âme de douceur spirituelle. Donc voyez qu'il ne s'agit pas d'emmagasiner une certaine quantité de connaissances, mais de travailler à une certaine qualité d'appropriation, d'intériorisation. Est-ce que toutes ces pensées, toutes ces idées restent à la surface de mon psychisme, de mon discours, ou bien est-ce qu'elles descendent jusqu'à mon cœur pour le transformer? Est-ce qu'il y a quelque chose d'existentiel dans les sujets que je travaille? Ça m'a frappé hier de voir à quel point vous venez tous ici pour des choses qui vous touchent. Vous venez chercher quelque chose qui vous fait vivre. Alors saint Augustin a écrit un petit opuscule qui s'intitule « Des magistraux ». Des magistraux dans lequel il parle du maître spirituel, du maître intérieur. Ne donnez à personne le nom de maître. Il n'y a qu'un seul maître véritable, ce maître intérieur qui est Dieu lui-même et qui enseigne au-dedans. Je vous redis, Dieu récompense son humilité, son obéissance en remplissant son âme de douceur spirituelle. Toutes les paroles qui résonnent à nos oreilles n'ont de sens qu'en tant qu'elles nous ramènent à l'écoute de ce maître intérieur qui enseigne du dedans sans bruit de parole. Et donc vous voyez le chemin qui vous est proposé. Certes, des paroles vont frapper vos oreilles, mais ces paroles n'auront de pertinence que dans la mesure où elles seront éclairées de l'intérieur par ce maître qui habite dans l'âme et qui est qui est la vérité même, hein, qui est le révélateur de vérité, c'est-à-dire qui donne la force et l'imprégnation du cœur à ses paroles. Alors on connaît aussi la maxime de Jean de la Croix, que je vous relis. Le Père Céleste a dit une seule parole, et c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Donc le Père Céleste ne dit que son Verbe, son Fils. Ce Fils, il le dit sans commencement ni fin, hein, dans le silence éternel. Il nous l'adresse dans justement le mystère de l'incarnation, dans l'envoi du Fils dans ce monde. Et c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre, c'est-à-dire que le Père nous dit son Verbe dans le secret du cœur. Il chuchote à l'oreille de notre âme ce Verbe en lequel il met tout son amour. Il nous donne son Fils. Donc l'objectif recherché dans la formation que vous entreprenez, c'est d'être ramené à l'écoute intérieure du Verbe, cette parole pleine, définitive du Père, qui contient toute sa sagesse, tout son amour. Donc certes, il faudra emmagasiner un peu, mais surtout recueillir, unifier, simplifier, voire même appauvrir. Et c'est peut-être la raison, alors je ne sais pas si c'est circonstanciel ou si c'est choisi, mais je crois que c'est la raison la plus profonde du choix de l'audio plutôt que de la vidéo pour la transmission des cours. Vous pouvez être frustré de ne pas regarder des vidéos, mais contrairement à la vidéo, l'audio ne mobilise pas toute l'attention, ne l'absorbe pas autant. Ce qui permet et favorise une autre écoute, l'écoute intérieure du seul maître qui donne la lumière à l'intelligence et la chaleur à la volonté. Vous voyez, quand vous écoutez, vous n'êtes pas mobilisé à 100%. Alors c'est connu, quand on téléphone, souvent on gribouille parce qu'il faut qu'on s'occupe. Vous voyez. Mais si vous êtes absorbé par la vision plus l'audition, il y a beaucoup moins de disponibilité intérieure. Vous le comprenez, ce parcours de formation ne peut se concevoir sans la prière. Et même sans cette prière spécifique et tellement familière au Carmel, qu'est l'oraison silencieuse. Ce sont encore, en quelque sorte, les travaux pratiques. Et c'est cette écoute intérieure dans le silence qui va donner sens et saveur à tous les cours. Donc pour prendre une comparaison bien imparfaite, on ne vous permet d'écouter les cours qu'en streaming. C'est très verrouillé. Le frère Armand a peur que ça fuite. Donc presque on vous met un bracelet électronique. Eh bien, de même qu'on ne peut écouter les cours que connectés, eh bien, spirituellement, il faut vous dire que pour profiter des enseignements, il faut être connecté à son intériorité. La clé de compréhension, la caisse de résonance, c'est votre cœur. Donc, s'il manque à la parole la caisse de résonance de votre intériorité, le lieu à partir duquel les choses s'éclairent et s'unifient, eh bien, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Il y a peu de chances que vous puissiez vraiment goûter l'enseignement qui vous est proposé. Donc, conclusion de cette partie, à côté de votre travail sur les cours, des lectures de textes, il faut vous adonner régulièrement à cet exercice d'écoute du cœur dans le silence qu'est l'oraison. Chacun à sa mesure, selon le temps qu'il dispose, mais c'est un complément nécessaire. Enfin, troisième partie et deuxième attitude attendue de l'étudiant. Vous voyez que ce sont des attitudes connexes. Je l'appellerai charité, mais je vais développer ce que je mets derrière ce mot. Alors tout d'abord, une anecdote de la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus. Un jour, sœur Geneviève, donc sa sœur Céline, est avec Thérèse dans la bibliothèque du Carmel de Lisieux. Et elle soupire, « Oh, que j'aimerais avoir lu tous ces livres !» Et la petite Thérèse répond, « Ah, pas moi !» J'aurais perdu un temps précieux que j'ai utilisé à aimer Dieu. J'aurais perdu un temps précieux que j'ai utilisé à aimer Dieu. Alors j'ai entendu dans ce que vous avez dit hier, vous venez pour comprendre, pour savoir. Et vous sentez qu'au Carmel, il y a une véritable sagesse des voies de Dieu. Des chemins pour aller à Dieu, pour comprendre les états de la prière. La théologie, c'est la foi qui cherche à comprendre. Fides querens intellectum. Donc la foi imprègne l'intelligence et cherche à comprendre l'objet qu'elle saisit à l'obscur. Mais le Carmel pourrait ajouter... Comprendre pour aimer. Comprendre pour aimer, et même en complément, aimer pour comprendre. Alors je caricature un petit peu. On dit que l'oraison carmélitaine est plus affective, alors que l'oraison dominicaine est plus intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des oraisons dans lesquelles on fait travailler l'intelligence pour contempler la vérité, et il y a des oraisons où on travaille les affections de la volonté pour se porter vers Dieu. Alors Thérèse d'Avila enseigne volontiers, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Donc le Carmel se situe naturellement sur le versant de la charité, beaucoup plus que sur du côté de la, on va dire, de la spéculation. C'est un savoir pratique. Le Carmel est tourné vers l'exercice concret de la charité surnaturelle, si bien qu'on ne peut guère entrer dans cette sagesse si on n'entre pas dans un chemin de conversion du cœur, d'ouverture aux autres, d'amour de Dieu. Nous voyons que ces saints du Carmel sont tous des pédagogues concrets, des chemins pour aller à Dieu et pour aimer le prochain. Pour le dire encore autrement, ces docteurs du Carmel ne sont pas des savants aux yeux du monde, comme pouvait l'être un Thomas d'Aquin ou un Albert le Grand, mais ce sont des experts dans l'art d'aimer. Ce sont des maîtres, non d'un savoir théorique, mais d'une sagesse pratique, des pédagogues de la prière et de la charité. Lorsque nous étions en pèlerinage en Avila, il y a quelques jours, avec le frère Anthony Joseph et les étudiants, nous avons constaté que Jean de la Croix n'avait pas fini ses études, et que ni Thérèse d'Avila ni Thérèse de Lisieux n'avaient eu beaucoup de diplômes. Donc nous allons travailler sur trois docteurs qui n'ont pas été docteurs selon le monde. Alors certes, il y a un contenu, parce que justement c'est grâce à ce contenu qu'il y a transmission. Donc il y a un contenu que vous venez chercher, sinon vous ne seriez pas là. Mais vous sentez que vous avez besoin de comprendre, de nourrir votre intelligence. Mais il ne faut pas que cette soif de connaître vous fasse oublier la finalité qui est pour aimer mieux, pour aimer mieux. Et comme je vous le disais, et c'est cet amour qui conduit à la connaissance véritable. Jean de la Croix, dans le Cantique, dit « Là, il me donna son cœur, là, il m'enseigna une science pleine de suavité. » C'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui ne vient que de l'amour. Si Dieu est amour, alors on connaît Dieu qu'autant qu'on l'aime. Malheur à la science qui ne se tourne pas à aimer. Donc si vous prenez la science sans la convertir en amour, pour le bien de l'Église et du monde, il y a détournement de fonds, il y a abus de biens sociaux, il y a... Voilà, vous sortez de l'intention de ceux qui vous donnent cette sagesse. Alors je vous cite encore la petite Thérèse, dans le manuscrit B, folio 1 recto. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret. Ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne comprends pas ce que je lis. La science d'amour, oh oui, cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme. Je ne désire que cette science-là. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Donc vous voyez, c'est de là qu'est née la titulature de son doctorat. La science d'amour, je ne désire que cette science-là. Donc il y a des savoirs théoriques, on pourrait dire, qui se communiquent d'intelligence à intelligence, mais comme le dit Thérèse Bénédicte de la Croix, l'esprit du Carmel, c'est l'amour. Les saints du Carmel sont des professeurs de charité, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de transmission sans un engagement du cœur. C'est la devise du cardinal Newman, hein, cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. Donc l'intelligence parle à l'intelligence, mais le cœur parle au cœur. Donc Le cœur de Thérèse, de Jean, de la petite Thérèse veut vous parler et vous ne pouvez l'écouter qu'en apportant la disponibilité de votre cœur. Donc ceci pour dire encore que la formation qui vous est proposée n'est pas une formation comme les autres, parce qu'elle se propose une finalité très haute, bien au-delà des moyens qu'elle met en œuvre. Cette finalité très haute, c'est le progrès de la charité, c'est la croissance spirituelle. Alors on ne peut pas faire passer des examens de charité, donner des diplômes de charité. Tout ça, c'est dans le secret de Dieu. Mais comme je vous le disais, si ce que vous apprenez ici n'est pas mis au service de l'Église et du prochain, si Jésus n'est pas mieux aimé et servi, eh bien, nous aurons échoué. Je vous redis Jean de la Croix. Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres faites sans cela. Et c'est pourquoi donc nous vous proposons de faire la vaisselle après les repas. Mais, et donc je poursuis sur ce thème, on n'aime pas tout seul. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous l'avons entendu hier aussi, la vie fraternelle est essentiel au Carmel. C'est-à-dire que cette sagesse du Carmel que vous voulez recevoir, dont vous voulez vous nourrir, elle résonne et elle s'amplifie dans la communion des cœurs. Et c'est même le seul lieu où elle peut être véritablement reçue. Donc, dans ce qui fait que vous êtes ici, il y a des rencontres. J'ai entendu des rencontres avec des saints du ciel qui vous ont, j'allais dire, plus que choisis, qui vous ont cueillis et qui se sont révélés à vous comme des vivants. Et puis des rencontres avec des témoins vivants, porteurs souvent à leur insu d'une étincelle qui vous a mis en route. Et dans ce que vous avez à vivre ici, il y a ce savant mélange de prières, de rencontres, d'échanges, de partages. Tout passe par des relations concrètes. Alors nous ne voulions surtout pas que cette formation participe au grand mouvement d'ubérisation de la religion, si vous voulez. Donc ce n'est pas seulement la mise à disposition de contenu, le délivrero de la spiritualité à consommer chez soi bien au chaud. Voyez. Donc ce n'est pas du tout ça, parce que justement, l'Église a quelque chose de sacramentel qui suppose la présence les uns aux autres. Donc il fallait proposer une expérience de l'Église comme un espace dans lequel Dieu se donne, comme une matrice de la transmission de cette sagesse du Carmel. Et c'est pourquoi nous avons voulu, autant que possible, former une communauté, c'est-à-dire que se tissent entre nous des liens de charité. Vous donner à goûter quelque chose du mystère de l'Église comme manifestation de la charité surnaturelle, de l'agapé. Et nous avions conscience que pour proposer cela, nous devions commencer par nous-mêmes, par vivre ce que nous voulions transmettre. Et c'est pourquoi, justement, nous avons fait œuvre de communion entre nos deux provinces pour proposer cette formation, aussi avec tous les membres de la famille carmélitaine. Donc, le Carmel engendre la communion et se reçoit dans la communion. Alors, comprenons-nous bien. Il ne s'agit pas de mettre le tampon Carmel sur tout ce qui passe à proximité. Mais, comme l'a si bien expliqué le frère Anthony Joseph, de vous faire goûter le Carmel au sein d'une tradition vivante, et non pas seulement dans des livres ou sur Internet. C'est pourquoi il est très heureux que nous soyons ici, accueillis par une communauté de frères, et de faire concrètement l'expérience, à notre petite mesure, hein, de cet alliage de solitude et de communion dans le silence, dans les rencontres, d'oraisons silencieuses, de prières liturgiques, de partage fraternel, de récréation, etc. Bien sûr, cette petite expérience ne remplace pas vos communautés d'appartenance, votre famille, vos paroisses, vos communautés religieuses, qui sont les lieux d'église dans lesquels vous êtes enracinés. Mais elle doit plutôt vous ouvrir à la présence de l'Esprit dans le quotidien de chacune de vos églises domestiques. On pourrait dire que le Carmel vous donne de toucher le cœur de l'Église comme un cœur brûlant de charité. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Donc pour faire bref, disons que le Carmel est un secret qui ne se révèle pas, ne se dévoile pas en dehors d'un certain climat de charité, d'un espace de communion spirituelle dont nous espérons vous donner le goût par ces sessions et dont vous devez trouver, chercher le terrain d'exercice dans votre quotidien. En conclusion, je reprends les trois points développés. Cette formation va vous proposer des contenus que nous voulons et espérons les meilleurs possibles. Deuxième point, ces contenus n'auront guère de pertinence si vous ne vous lancez pas dans la grande aventure de l'oraison à votre rythme et selon vos possibilités. Et troisièmement, et si, fort de cette prière et des nourritures reçues, vos cœurs ne s'engagent pas sur le chemin d'une charité concrète. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.